Qu'allons-y avec la 54e leçon de notre série sur l'histoire de l'Église. On va regarder ce soir ce que les chrétiens doivent savoir sur les réveils dans la deuxième partie. Alors, on avait remarqué les semaines précédentes le classement que les différents auteurs qui ont étudié les réveils, alors ils ont classé premier grand réveil, deuxième grand réveil, troisième, quatrième, cinquième, sixième, avec toutes les dates. Je vous ai donné ça sur les documents que les gens peuvent télécharger. Alors, jusqu'ici, on avait étudié les deux premiers, le premier grand réveil évangélique de 1725 à 1775 et le deuxième, de 1792 à 1822. On avait voulu mettre les présentes leçons à l'intérieur pour qu'on puisse avoir une idée plus exacte de qu'est-ce que c'est les réveils. Alors, il y avait neuf choses que je voulais toucher. Alors, dans la partie 1, qu'on le voit à la page 2, là, on avait regardé la semaine dernière le besoin des réveils, les obstacles au réveil et aussi la préparation au réveil. Cette semaine, dans la partie 2, on va regarder les caractéristiques du réveil, le pourquoi et le but du réveil, en anglais « the purpose of revival », puis les effets du réveil. Puis la semaine prochaine, on regardera l'arrivée, la contrefaçon du réveil et les réveils sont-ils encore possibles de nos jours. Alors, rappelons que le réveil est un acte souverain de Dieu qui ne peut être empêché, commandé ou promu ou expliqué. C'est un miracle, un acte surnaturel de Dieu. Alors, on va regarder le premier point ce soir, les caractéristiques du réveil. Alors, on va voir qu'il y a différentes caractéristiques. Il y a trois sortes de caractéristiques, les générales, les spéciales, puis les variables. Alors, on va commencer par les générales. Alors, on peut se servir du Josué, chapitre 4, versets 21 à 24. Il dit aux enfants d'Israël, « Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, « Que signifient ces pierres? » Vous en instruirez vos enfants, et vous direz, « Israël a passé ce Jourdain à sec, car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous eussions passé, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. » Alors, une des caractéristiques d'un réveil, c'est vraiment que le peuple de Dieu se voit à une prise de conscience beaucoup plus aiguë, un sens de la majesté de Dieu. Alors, durant les réveils, les croyants prennent conscience davantage de la grandeur suprême du Seigneur. Ils perçoivent beaucoup plus clairement son infinie sainteté, tout le côté insondable et noble de ses perfections, de sa grâce, de son amour, de sa justice et de sa puissance. Ça l'amène également un sens du péché exceptionnel. Alors, les chrétiens ou les personnes que le Saint-Esprit amène à la conviction de péché voient avec acuité le côté grave du péché et ses conséquences. Le péché est vu pour ce qu'il est, parce qu'il est un terrible ennemi qu'il faut combattre de toutes ses forces et surtout arriver à le mortifier avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, durant les réveils, c'est quelque chose qui est particulièrement fort. Les chrétiens sont beaucoup plus, agressifs face au péché, dans la volonté de le mortifier que dans les, lors des périodes où il n'y a pas de réveil. Autre chose que ça l'amène comme caractéristique générale, c'est un sens d'émerveillement du salut en Jésus-Christ. Alors, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ dans l'œuvre de la rédemption sont dorénavant beaucoup plus profondément appréciées par les âmes et saisissent la richesse, la beauté et l'amour du Sauveur. Alors, normalement, durant les réveils, il y a un très, très grand amour du Seigneur Jésus-Christ, une louange. Il y a aussi une autre caractéristique, un désir intense de témoigner de Jésus-Christ. Alors, les âmes tièdes ou négligentes deviennent instantanément pleines de courage et d'hardiesse pour témoigner de Jésus-Christ. Tous les obstacles considérés jusque-là comme presque insurmontables sont maintenant affrontés avec succès. C'est vraiment une caractéristique. Dans les réveils, les gens dans les églises deviennent zélés pour l'évangélisation. Autre chose, une prise de conscience de la présidence du Saint-Esprit sur tout et sur la vie de la communauté. Alors, lors des réveils, chacun sait, avec une certitude absolue, que c'est une manifestation divine. Alors, il semble que quand ça arrive, il n'y a personne qui doute de l'origine et de l'influence de ce qui se passe au milieu d'eux. Ils sont conscients que ce n'est pas du jour au lendemain, ils sont devenus bons, ils sont conscients que c'est véritablement, ils sentent que c'est la présence du Saint-Esprit qui change les choses en eux. Maintenant, on va regarder les caractéristiques spéciales. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme caractéristique spéciale? C'est l'universalité. Ça n'arrive pas juste chez les jeunes, pas juste chez les enfants, pas juste chez les femmes, pas juste chez les hommes. Ça arrive dans toutes les classes de la société. Alors, les gens de tout âge, de tempéraments très différents, de toute classe sociale et de tous les niveaux d'instruction sont touchés. C'est ce que l'on peut rejeter, les explications des psychologues. C'est ce qui fait qu'on peut rejeter les explications des psychologues qui cherchent à réduire le phénomène à des caractéristiques psycho-économico-sociales. Alors, bien entendu, quand ça arrive, ces choses arrivent là, c'est étudié par des psychologues non convertis. Et là, ils cherchent à démystifier tout ça selon leur compréhension, qui est souvent complètement hors champ. Autre caractéristique spéciale, le temporaire. Alors, normalement, ça dure jamais, par exemple, 50 ans, 100 ans, à part quelques exceptions, mais normalement, les réveils durent pour un temps, ordinairement quelques années, et prennent fin. La durabilité des effets, maintenant. Les résultats sont supérieurs aux campagnes modernes d'évangélisation. Par exemple, on estime que les personnes qui se sont déclarées régénérées lors des campagnes d'évangélisation ne sont plus dans les églises après seulement quelques années. On évalue, par exemple, dans certains milieux, un demi de 1%. Alors, c'est vraiment peu, là, quand on regarde une campagne d'évangélisation où on déclare qu'il y a des centaines ou des milliers de personnes qui sont supposément donné leur vie au Seigneur, et quand tu observes au bout de 10 ans, tu regardes si ces gens-là sont encore dans les églises, ils ne sont plus là, ça veut dire que les campagnes modernes d'évangélisation, c'est pas trop efficace. Alors, la durabilité des effets, pour les réveils, les campagnes d'évangélisation sont souvent, pas pour les réveils, mais les campagnes d'évangélisation, normalement, sont souvent des plaidoiries émotives pour faire avancer les gens. Alors que dans les réveils véritables, ce sont les gens qui viennent sans invitation. Voici quelques chiffres sur les résultats des réveils passés. Par exemple, aux États-Unis, entre 1730 et 1745, on parle de Jonathan Edwards, mais il y en avait d'autres impliqués là-dedans. Ça, c'est le nom le plus connu. On parle de 50 000 convertis permanents. Aux États-Unis aussi, lors d'un autre réveil, 1857 à 1859, 500 000 convertis permanents. En Ulster, l'Ulster, si je ne me trompe pas, je pense que c'était en Irlande, ça. En tout cas, c'était en Grande-Bretagne, en tout cas, là, 100 000 convertis permanents. Au Pays de Galles, 50 000 convertis permanents. Alors, normalement, les véritables convertis ont un grand zèle pour Dieu, pour son nom, pour sa cause, avec une repentance authentique et des fruits durables et abondants. Autre chose qui se produit, c'est que c'est souvent lors de ces périodes-là qu'il y a une grande augmentation des hommes consacrés au ministère. Alors que quand on regarde les statistiques aujourd'hui, d'après les grandes organisations missionnaires, il semble qu'il y ait de plus en plus de difficultés à recruter des gens, à former des gens, parce qu'il n'y a plus d'intérêt. Alors, nous, on est en période de déclin, mais quand il y a un réveil, c'est exactement l'inverse qui se produit. Pas qu'un monde qui veut aller au ministère. Alors, c'est un signe. L'autre chose qui se produit normalement lors d'un réveil, c'est le niveau et le ton moral est considérablement augmenté, observable et mesurable. Et la troisième catégorie de caractéristiques, ce sont les variables. Les variables, autrement dit, c'est qu'il n'y a pas une recette qui fait en sorte que les réveils arrivent tous de la même façon. Alors, on a, par exemple, dans leur manière d'apparition. Certains réveils sont apparus de façon soudaine, c'est-à-dire comme il n'y a rien, puis le lendemain, du jour au lendemain, c'est un grand changement. Et dans d'autres cas, c'est des façons graduelles, donc ça se fait graduellement. Donc la manière d'apparition n'est pas la même. Les canaux d'apparition non plus, ça n'arrive pas toujours de la même manière. Alors dans certains cas, c'est des assemblées de prières de petits groupes de chrétiens. Par exemple, en Irlande du Nord, c'est trois hommes qui avaient parti des soirées de prières. Et aussi, il y en a eu une grosse aux États-Unis. Il y avait une personne qui avait commencé une heure de prière sur l'heure du dîner. Et il avait commencé seul. Et quand il a, après un certain temps, je pense qu'il s'était ramassé des centaines et des centaines de chrétiens qui assistaient à ça, qui a fait en sorte que le Seigneur a écouté leur prière et a envoyé un réveil dans New York à cette époque-là. Des fois, ça arrive comme canal d'apparition par les prédications. D'autres fois, c'est par des événements extraordinaires, une calamité ou la mort tragique d'une personne. Je me souviens d'avoir lu un réveil qu'il y avait eu dans une université américaine. Et c'était quelqu'un qui était connu et aimé, qui était décédé. Et ça l'avait provoqué un genre de réflexion. Et des fois, le Seigneur se sert de ces événements-là pour amener les gens à la repentance. Et parfois, ça arrive au milieu de grandes foules. Alors, quand on regarde le type de serviteur choisi par le Seigneur, alors, il y en a, ça aussi, il y a de la variété là-dedans. Parfois, le Seigneur utilise des grands intellectuels et érudits comme Jonathan Edwards, George Whitefield, Martin Luther, John Knox, Jean Calvin. Mais parfois, il utilise aussi des hommes très ordinaires. Je me souviens d'avoir déjà lu des histoires de réveil. C'était des pasteurs dans des petits villages. C'était très, et le Seigneur avait pris... du jour au lendemain, ces hommes-là étaient devenus des prédicateurs là, hors pair que tu ne peux pas expliquer juste par des choses humaines. Maintenant, autre chose dans laquelle ça varie aussi l'arrivée des réveils, c'est l'étendue géographique. Alors, les réveils sont parfois locaux, parfois par district, d'autres fois par pays ou même internationaux. Je me souviens de, il y en avait eu un au pays de Galles. Jonathan Goffert était en Chine et un autre qu'on a regardé sur le bulletin, on a mis son nom sur le bulletin, je pense que son nom c'était Simon Fraser. Qui était en Chine, qui était en train de faire de l'évangélisation. Ils ont entendu parler du réveil au pays de Galles. Ils se sont tous les deux déplacés pour aller là. Et ils ont retourné en Chine, et là, ils ont mis le peuple à genoux. Ils ont mis les pasteurs à genoux. Et le Seigneur a permis que le réveil se poursuive aussi en Chine. C'est très intéressant, ce phénomène-là. Alors, les réveils se manifestent aussi tant dans les grandes villes que dans d'humbles villages et hameaux. Autre facteur qui varie, c'est la présence du spectaculaire et des émotions. Alors, certains phénomènes se manifestent parfois lors des réveils. Agonie des âmes, convulsions, perte de conscience, cris et hurlements, pleurs et sanglots, transe, grognements, gémissements, plaintes, guérisons, etc. Il varie d'un réveil à l'autre, mais je pense que la meilleure façon, c'est de se servir de ce que Jonathan Edwards a écrit sur le sujet. Il dit que c'est ni une preuve que c'est de Dieu, puis ni une preuve que c'est pas de Dieu. Alors, il faut faire la part des choses là-dedans, rester très centré sur les Écritures et prier beaucoup. Je pense que c'est une nécessité dans ce temps-là. Parce que quand c'est des vrais réveils, il y a des phénomènes qui se produisent, comme par exemple, je vais parler de... celui qui avait eu 25 000 conversions, c'est quoi son nom? Je ne me souviens pas de son nom. Alors, en tout cas, lui, quand des fois il prêchait, il y avait des personnes qui tombaient sous une conviction de péché tellement profonde que ça durait des semaines. Quand on parle ici de, d'agonie des âmes, là, des fois les personnes sont touchées avec une telle profondeur du sens de leur péché, de leur sens de la perdition, qu'on dirait qu'ils tombent presque malades. Et c'est lui qui avait comme, comme travail de, d'amener ces gens-là à la croix. On dirait que c'est comme l'esprit met tellement l'esprit, la conviction de péché sur la personne que la personne en devient presque malade. Et lui, son travail, c'était de les amener à la croix. Et semble-t-il que quand les gens réalisent la croix, pour eux, c'est un soulagement terrible et vraiment, là, ils réalisent la bonté de la grâce de Dieu. Deuxième chose qu'on va regarder, c'est le pourquoi et le but du réveil. Pourquoi le Seigneur en envoie? Alors, tout à l'heure, on a lu Josué, on va relire le verset 24, parce que dans le verset 24, il nous donne deux raisons pour lesquelles le Seigneur permet ces choses-là. Ça dit « afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante ». Autrement dit, une des raisons, c'est que le Seigneur veut rappeler aux hommes, tant les hommes régénérés dans les églises que les hommes non régénérés, qu'il est puissant. Deuxième chose, il veut inspirer de la crainte, comme ça dit dans la fin du verset, « et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu ». Alors, pourquoi le Seigneur a permis la traversée du Jourdain alors que le Jourdain est en crue? Il dit, c'est pour manifester ma puissance, c'est pour vous inspirer de la crainte de ma personne. Et dans les réveils, c'est exactement la même chose. Alors, le but des réveils est de manifester la toute-puissance de l'Éternel et d'inspirer sa crainte, tant auprès des croyants que des hommes en général. C'est donc le but des réveils, ultimement, la gloire de Dieu. Ces phénomènes n'ont aucunement pour but de nous procurer des expériences pour augmenter notre nombre ou pour améliorer les finances de l'Église ou pour d'autres raisons anthropocentriques. Le livre d'Ibsen nous démontre qu'un des thèmes dominants est que la prière au Tout-Puissant, par la prière au Tout-Puissant, les nations moqueuses puissent être réduites au silence. Par exemple, quand on lit le psaume 46, ça dit au chef des chants, les fils de Corée, sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante, l'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Donc les deux premières raisons sont la manifestation de sa puissance et l'inspiration de sa crainte. Une troisième raison est une prise de conscience de sa présence. Un peu comme on disait tantôt, quand le réveil arrive dans une église, les gens savent immédiatement que ce n'est pas quelque chose de naturel. Ils sentent que c'est la présence de Dieu. Alors, comme Josué, chapitre 3, verset 10, Josué dit « À ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Héviens, les Phérisiens, les Guirgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. » Voyez-vous, le peuple voyait des choses extraordinaires qui se passaient, mais Dieu voulait que le peuple sache que ce n'était pas leur exploit, que c'était lui. Il dit que le Dieu vivant est au milieu de vous. Donc, c'est lui qui les chasse. Alors, les chrétiens peuvent parfois oublier que l'Église est un grand édifice dans lequel Dieu lui-même habite. Éphésiens chapitre 2, versets 21-22. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous devrions être beaucoup plus conscients de la proximité divine. Notre problème est l'esprit d'indépendance. Nous sommes portés à nous fier à nos préparations, à l'érudition, à la connaissance et à l'organisation d'activités. La peur des hommes est immédiatement enlevée lorsque nous réalisons pleinement que le Dieu vivant est au milieu de nous et avec nous. Maintenant, on peut regarder un petit peu quand est-ce que Dieu envoie les réveils. Alors, Dieu le fait toujours après une période de grande épreuve et de grand découragement. On peut prendre l'exemple quand Dieu l'a fait après la sortie d'Égypte. Alors, on sait qu'il était vraiment pris comme une souricière. En arrière, il y avait l'armée égyptienne qui s'en venait. Chaque côté, c'était des montagnes, donc il ne pouvait pas s'en aller par là. Puis en avant d'eux, c'était la mer. Alors, il était rendu là comme à leur extrémité. Et on remarque que Dieu agit souvent quand l'homme est dans l'extrémité. Alors, il n'y a eu qu'un réveil majeur après 1859. Nous avons traversé une période de grande stérilité spirituelle qui s'était manifestée par la haute critique qui était apparue, l'évolutionnisme, la trop grande place de la philosophie et de la psychologie, les sciences, l'occultisme, etc. Alors, on pouvait dire que l'Église était alors dans le désert. Autre période, quand Dieu envoie les réveils, Dieu le fait lorsque nous arrivons à un point critique. Donc, le désespoir, en anglais, ils appellent ça vraiment « hopelessness », impuissance, et aussi « helplessness », donc quand on se sent sans défense, defenselessness. Alors, nous pouvons voir des exemples bibliques de ces états d'esprit ressentis par le peuple de Dieu, par exemple, lors des circonstances suivantes. Lorsqu'Israël arriva devant la mer Rouge, ils avaient les ennemis derrière eux, des montagnes de chaque côté d'eux et la mer devant. Ils sentaient pleinement leur impotence. Ils étaient enfermés comme dans un piège et vraiment réduits à la genue humaine. Le même phénomène se produisit lorsque Josué conduisit le peuple dans la terre promise et qu'il devait traverser le fleuve Jourdain alors en cru et pratiquement non traversable. C'est dans ces moments que Dieu intervient. Le découragement moderne provient souvent du fait que l'Église ne semble pas consciente de son état et veuille encore se fier sur l'organisation, les moyens humains et les activités humaines. Puisse le Seigneur, dans sa miséricorde, nous amener au point critique où seule sa toute-puissance intervient, qui peut s'avérer la seule et unique solution efficace pour des victoires et pour secouer nos léthargies, qu'il nous révèle sa gloire, sa sainteté et son omnipotence, qu'il nous révèle aussi notre impotence, notre paralysie, notre inhabilité et notre désespoir. Le troisième point qu'on va regarder, c'est les effets du réveil. Lorsqu'arrivent les réveils, il se produit souvent de l'opposition provenant tant de l'intérieur que de l'extérieur. On peut regarder Acte 2, versets 11 à 13. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, sont pleins de vin doux. Ça arrive souvent, moi, c'est parce que ce que j'ai lu des réveils, c'est que quand ça commence, des fois, c'est des choses qu'on ne connaît pas et ça énerve. Et à quelque part, quand le Seigneur permet ça, il faut vraiment que les leaders soient des personnes qui n'encouragent pas les phénomènes qu'on parlait tantôt de extraordinaire, là, mais plutôt qu'ils cherchent à les décourager et qu'ils soient très scripto-centrés, centré sur les Écritures toujours et en prière continuellement. Parce que les réveils démontrent que souvent, quand Dieu envoie un réveil, le malin intervient avec des contrefaçons. Et à quelque part, des fois, c'est pas toujours évident de savoir distinguer les choses. Et ça prend beaucoup de sagesse, ça prend vraiment de la proximité avec Dieu. Alors ça, c'est une chose qui est bien connue. Dans tous les réveils, ça s'est produit. Alors, souvent, ça amène de la désapprobation. La désapprobation vient du fait que c'est des phénomènes qui sont pas connus, qui amènent des fois de la peur. Et, alors, l'élément émotionnel est toujours présent lors des réveils, mais pas tous les autres qui y sont véritablement parfois rattachés. Autrement dit, il y a toujours de l'émotion dans les réveils, mais les autres, qu'on a parlé tantôt, les affaires extraordinaires, ça n'arrive pas tout le temps. Et il ne faut pas les encourager. Comme Chris, nommé Evans, les années 1900, lui avait vraiment poussé. Il avait comme presque abandonné la Bible et il disait qu'il écoutait sa voix intérieure et ce qu'il croyait être des manifestations du Saint-Esprit, et ça l'a complètement dérapé. Et quand ça a été fini, il a passé le reste de sa vie à genoux en prière pour demander pardon au Seigneur, puis pour se rendre compte qu'il avait fait une erreur monumentale. Alors dans certains réveils, les phénomènes spectaculaires, comme les agonies d'âme, les convulsions, les pertes de conscience, les cris, les hurlements, les pleurs, les sanglots, les transes, les grognements, les gémissements, les plaintes et les guérisons, sont peu ou pas présents. Par exemple, lors du quatrième réveil de 1858 à 1898, ils furent peu nombreux aux États-Unis, peu nombreux au pays de Galles et presque inexistants en Écosse. Cependant, ils furent très importants en Irlande du Nord. Alors, on va parler des phénomènes physiques qui se passent des fois dans ces affaires-là et qui ne sont pas toujours faciles à expliquer. J'ai pris les noms anglais qu'on va essayer de traduire. En anglais, ils appellent ça « being struck ». Alors, on pourrait traduire ça par « être frappé ». Semble-t-il que c'est exactement comme si une personne était littéralement frappée sur la tête, et que le résultat est que la personne tombe sur le sol dans un état d'inconscience, et il semble que ce phénomène ait été fréquent lors de plusieurs réveils. Un autre phénomène, c'est ce qu'on appelait faint, alors qu'on peut traduire par s'évanouir. Cet évanouissement se produisait lorsqu'une personne était sous grande conviction de péché. Les transes, alors, le phénomène se produisait lorsque des personnes sont assises ou debout et que soudainement, leur regard se trouve fixé au loin, comme s'ils voyaient quelque chose et qu'ils soient en même temps inconscients du monde extérieur. Ils ne semblent plus voir rien de ce qui se passe autour d'eux. Et ça aussi, c'est des choses bizarres. Et il y a d'autres types de phénomènes de ce genre-là. Maintenant, il y a des phénomènes aussi qu'on appelle mentaux, qui sont temporaires aussi, et qui sont donnés, semble-t-il, à des individus pour des périodes de temps temporaires, comme le don d'éloquence. Des personnes ordinairement timides deviennent tout à coup richement éloquents. Des pasteurs ordinaires devenant de grands prédicateurs qui prêchent avec une grande autorité, une grande assurance et une grande puissance. Je pense que le meilleur exemple de regarder ça, c'est de regarder Pierre. Pierre qui était une personne peureux comme un lapin, puis à un moment donné, il a pris une très, très grande assurance en prêchant devant le Sanhédrin et en leur faisant des reproches. C'était pas naturel. C'était uniquement après la descente du Saint-Esprit. Alors on peut penser que le Seigneur peut accorder ça à des individus dans des occasions bien particulières. Le don de prophétie aussi. Des personnes ayant la capacité de prédire le futur avec précision. Pas la prophétie dans le sens de prédire des choses bibliques, mais il semble qu'il y a eu des pasteurs, par exemple, un qui se réveille, il s'est fait réveiller à 2h du matin et il se faisait révéler ce qui allait se passer exactement le lendemain. Alors, c'est des choses qui arrivent. Le don de connaissance aussi, des personnes illettrées qui se voyaient soudainement la capacité de lire, le don de discernement, le don de planification. Alors, ce sont des phénomènes, bien entendu, quelqu'un veut étudier le phénomène des réveils en détail, mais là, à ce moment-là, il y a beaucoup de littérature qui ont été écrites par des médecins et par des gens qui connaissent ces choses-là, qui ont l'expérience, là. Alors, bien entendu, quand ces choses-là arrivent, ça attire l'attention des psychologues, des sociologues, de tout ce que vous voulez, des journalistes. Alors, bien entendu, eux, ils ont leur version de ce que c'est. Alors, on va dire, en gros, qu'est-ce qu'ils disent que c'est? Eux disent c'est du lavage de cerveau. En anglais, brainwashing. Alors, ils disent que les inconvertis font la comparaison de ces phénomènes-là avec des techniques de guerre, comme la privation de nourriture, privation de sommeil, emprisonnement dans des cellules isolées, paroles et cris constants, jusqu'à ce que les personnes craquent et qu'ils procèdent ensuite à leur endoctrinement. On a vu ça dans des films, des fois, là, c'est qu'ils prennent des personnes. Eux, ils disent que c'est les mêmes techniques qui sont utilisées pour produire ces phénomènes-là. Alors, on peut réfuter ça en disant qu'aux États-Unis et en Irlande, les réveils commencèrent par un seul homme. Aucune technique de ce genre ne fut utilisée. De plus, leur explication ne peut dire comment ces phénomènes seraient arrivés simultanément dans plusieurs pays. C'est ça la difficulté, comment ça se fait que ça arrive dans plusieurs pays, puis c'est les mêmes choses qui se passent. Alors, si ce n'est pas des techniques de manipulation comme ils veulent que les gens croient que c'est, qu'est-ce que c'est? Peux-tu l'expliquer? Alors, leur explication n'est pas non plus satisfaisante concernant les dons de nature spirituelle. Par exemple, si un pasteur bien ordinaire se met à prêcher avec une éloquence à la Spurgeon, ben, à quelque part, lui-même peut dire qu'il n'a pas étudié de façon particulière. Ça se fait du jour au lendemain. Alors, c'est des choses qui sont très difficiles à expliquer, excepté par la réalité de la présence du Saint-Esprit. D'autres disaient, en observant les phénomènes, c'est de l'hystérie collective. Alors, il y a un médecin qui était, Dr. Carson, qui est un médecin chrétien d'Irlande du Nord, qui a été témoin oculaire de ces phénomènes-là. Il les a relevés par écrit, il les a analysés et il a apporté son jugement pour exclure l'hystérie collective pour les causes suivantes. Alors, comme médecin, il savait ce que c'était de la véritable hystérie. Et il observait les phénomènes et il regardait si les phénomènes observés correspondaient à ce qu'on décrit dans les manuels de médecine comme étant de l'hystérie. Alors, il disait que dans les phénomènes qu'il voyait dans les réveils, il n'y avait pas le phénomène de boule dans la gorge. Il semble que dans les hystéries médicales ou psychologiques, les personnes étouffent invariablement. Dans l'hystérie aussi, il disait que les personnes souvent vont rire et pleurer à la fois ou vont passer très rapidement d'un état de rire à un état de pleurs. Puis il dit que dans les réveils, il n'y a rien de tout cela. Troisième observation qu'il a fait, qu'il dit dans l'hystérie, il y a convulsion des membres, donc des bras et des jambes, et il semble qu'il n'y ait rien de cela dans les réveils. Quatrième observation qu'il a fait, il dit l'hystérie, en général, quand c'est des phénomènes médicaux, c'est presque un phénomène presque exclusivement féminin. Dans les réveils, c'est à la fois chez les hommes et chez les femmes. Cinquième observation qu'il a fait, l'hystérie se produit généralement chez les femmes avec une santé fragile et faible, tandis que dans les réveils, toutes les sortes de personnes sont touchées, hommes, femmes, enfants, mais même robustes, tous robustes. Alors, un autre argument pour réfuter ces accusations, ce sont les types de personnalités des leaders. Alors, souvent, des gars comme Jonathan Edwards, c'est un intellectuel, un homme avec l'esprit froid. C'est pas un exalté. Alors, souvent, des intellectuels, souvent des personnes très rationnelles et des personnes de sang-froid. Alors, les résultats qui suivent sont souvent de nature très spirituelle. Alors, je pense que le phénomène, la clé de vraiment de compréhension de ces phénomènes-là, c'est l'observation des résultats. C'est ça que Jonathan Edwards dit. Regardez les fruits. Si des gens qui étaient froids dans des églises, ils deviennent soudain chauds, ils se mettent à évangéliser, ils veulent assister à toutes les soirées de prière, ils assistent à tous leurs cultes, ça c'est des fruits. Qu'il y a eu quelques petites manifestations émotives à travers de ça, faut pas que tu te fies là-dessus pour dire que c'est un phénomène causé par le démon. Alors, faut faire attention. Je pense que le Seigneur lui-même le disait. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alors, d'autres, on étudie ces phénomènes-là et disaient, c'est l'œuvre du diable. Alors, ce fut un argument qui fut rapporté par les catholiques et les unitariens où aucun de ces phénomènes ne se produisirent. Quand même curieux que dans toutes les dénominations, lors des 6 grands réveils, toutes les dénominations ont eu des manifestations de ça, excepté les catholiques, excepté les unitariens. Bien entendu, eux, ils voyaient ça qui se produisait ailleurs, alors ils disaient « c'est l'œuvre du diable ». Alors, c'est quand même curieux de savoir que ça a été partout excepté chez eux. Alors, la réfutation. Pourquoi le diable voudrait-il pointer les gens vers Jésus-Christ alors que l'Église est dans un état de sécheresse spirituelle? Luc 11, versets 14 à 18. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. » Alors, la grosse logique, c'est pas le malin, normalement, qui amène les gens vers Jésus-Christ. Alors, parce que, comme le Seigneur vient de le dire dans ce verset-là, le royaume divisé contre lui-même, ça ne sera pas brillant de sa part, disons. 1 Jean, chapitre 4, versets 2 et 3. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Acte 2, verset 14. 18, mais j'ai marqué 14 et 15. Alors Pierre se présenta avec les 11, il leva la voix. Et leur parlant ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. » C'est la troisième heure du jour. Alors, dans les versets 16 à 18, on a la véritable explication. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Alors le Seigneur avait prophétisé ces phénomènes. Et ce sont des phénomènes non plus qui ne sont pas exclusifs au réveil. Par exemple, on a des exemples bibliques d'extase, par exemple, dans deux personnages. Pierre a connu l'extase, Paul a connu l'extase. Alors, quand on regarde dans Acte 10, versets 10 à 12, il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert. Et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. On a maintenant l'expérience d'extase de l'apôtre Paul aussi, dans Actes 22, versets 17 et 18. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase. Et je vis le Seigneur qui me disait, « Hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. » Alors, il arrive que Dieu attire l'attention des gens. Il est bien connu que le Saint-Esprit affecte tout l'être, corps, âme et esprit. Nous devons cependant toujours faire preuve d'une grande prudence, de prière et de discernement à cause de notre nature fragile et des contrefaçons du diable. Toutes ces manifestations et ces événements doivent être rigoureusement et de façon permanente être encadrés, éclairés et dirigés par les Saintes Écritures qui sont bien entendu un guide très sûr. Alors les applications, les réveils comportent les caractéristiques suivantes: sens de la majesté divine, sens de la gravité du péché, sens de l'émerveillement face à Christ, désir de témoigner, prise de conscience de la présence du Saint-Esprit. Prions pour que le Seigneur nous en fasse comprendre toutes les facettes et nous inspire d'en saisir l'urgence pour notre vie individuelle et collective. Deuxième application, rappelons-nous que Dieu envoie les réveils pour manifester sa toute-puissance, inspirer sa crainte, faire réaliser la présence toute spéciale du Saint-Esprit. Dans sa sagesse, Dieu choisit les moments favorables pour manifester cette grâce dans les temps les plus sombres de l'histoire de son Église, lors des moments d'épreuve et de découragement de son peuple et aux moments les plus critiques. Troisième application, soyons conscients que les réveils comportent parfois des difficultés, celui de distinguer la véritable œuvre divine des contrefaçons diaboliques, celui parfois de la désapprobation et de la peur de l'inconnu, les fausses explications des païens pour nier ou affaiblir le phénomène. Les réveils sont des accomplissements de promesses divines prophétiques. Faisons-nous un devoir de mieux connaître ces interventions divines dans l'histoire pour notre plus grand bien et la plus grande gloire de Dieu. Amen.
Amen.